Bonjour à tous les amoureux de l'histoire de Don Front et qui ont bien raison de l'être. Aujourd'hui, nous allons parler des Plantagenêts et Don Front. Pas seulement des Plantagenêts à Don Front, mais des rapports qu'ils ont eus avec la ville, même quand ils étaient loin et qu'ils s'en occupaient quand même. Alors le préalable, c'est pourquoi les Plantagenêts se sont intéressés à Don Front et pourquoi ils venaient-ils ? Et là, il faut retourner un petit peu en arrière. À l'époque de Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre, duc de Normandie et avant tout ça, seigneur personnel de Don Front. Henri Ier Beauclerc avait une fille, c'est sa seule enfant légitime survivante depuis que son fils Guillaume Madelin a péri dans le naufrage de la Blanche Nef en novembre 1120 au large de Barfleur. Alors cette Mathilde, elle a été mariée à l'empereur du Saint-Empire Henri V, c'était en 1114. Elle y a gagné le surnom d'empereuse qui lui est resté. Veuve en 1125, elle continue à être empereuse même si elle n'est plus la femme de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, hein, on est bien d'accord. Henri Beauclerc l'a fait reconnaître comme son héritière par les barons normands en cas d'absence d'héritier mâle. Mathilde ne reste pas longtemps célibataire. Elle épouse en 1128, ou on lui fait épouser en 1128. Les princesses ne font pas ce qu'elles veulent à cette époque-là. On lui fait épouser Geoffroy d'Anjou. Alors Geoffroy d'Anjou, c'est le fils du comte Foulque V. Et Foulque V part l'année suivante définitivement pour la Terre Sainte. Et son mari, Geoffroy, devient comte d'Anjou. Donc, elle devient comtesse d'Anjou. C'était vraisemblablement une alliance nécessaire qu'Henri Beauclerc avait jugée nécessaire pour sécuriser la frontière méridionale de la Normandie. Alors, son mari, Guillaume, est surnommé Plantagenet. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a deux explications à ça. Alors, la plus commune des explications, c'est qu'il accrochait une branche de genêt, qu'il piquait une branche de genêt ordinairement dans sa coiffe. Et puis, il y en a une autre. C'est peut-être celui qui a planté des genêts, c'est-à-dire qui a développé les bois, les forêts, les landes plantées de genêts pour y pratiquer la chasse. Le chroniqueur Vasse dit quelque part « Gisfray que l'oncle amois plante geneste qui muit à voie bois et forest. Geoffroy que l'on appelait Plantagenêt qui avait beaucoup de bois et de forêt. » Donc ce serait peut-être là l'origine du surnom Plantagenêt qui sera donné à la dynastie. Hein. Ce serait le planteur de genêt. À la mort d'Henri Beauclerc en décembre 1135, il réclame, enfin les époux, Geoffroy et Mathilde, réclament donc sa succession, c'est-à-dire le duché de Normandie et le royaume d'Angleterre. Le vicomte d'Argentan, Exmes et Don Front, j'ai bien dit vicomte d'Argentan, Exmes et Don Front, pas seulement de Don Front, qui s'appelait Guigan Algazon, remet instantanément ses châteaux à Mathilde parce qu'il la considérait comme sa seigneur légitime. De nos jours, on mettrait un « e » à « seigneur », sa seigneur légitime. « Ut naturalem dominam susceptit ». Peut-être parce que les terres en question, dont Front, Exmes et Argentan, faisaient peut-être déjà partie de sa dot. S'ensuit une guerre civile entre le couple Geoffroy-Mathilde et un autre héritier possible qui était Étienne de Blois. Étienne de Blois, c'est le petit-fils de Guillaume le Conquérant, mais par sa mère, Adèle de Blois. Alors Geoffroy et Mathilde ont contrôlé assez rapidement le sud de la Normandie, on l'a vu, donc ils doivent être à Don Front très tôt. Mais ensuite, ils ont mis beaucoup de temps, une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus, à contrôler, à conquérir la Normandie et à la contrôler. Et ils ne sont jamais parvenus à dominer le royaume d'Angleterre. Geoffroy meurt en 1151. Sa femme Mathilde, l'empereuse, un peu plus tardivement, en 1167. Je ferme ma parenthèse. Et avant de mourir, il avait déjà donné le duché de Normandie à son fils Henri, ceci dès 1150. Donc Henri est duc de Normandie en 1150. À la mort de son père, Il devient donc comte d'Anjou et du Maine. Et après, il devient, pour le royaume d'Angleterre, il passe en Angleterre, il y a des combats là-bas, c'est indécis, et il finit par passer un compromis avec le roi Étienne, dont le fils, qui aurait pu être son héritier, qui s'appelait Eustache, est mort, j'allais dire, fort opportunément. Je n'ai pas dit qu'il a été assassiné, hein, du tout. Donc, le roi Étienne, qui n'a plus son héritier, adopte Henri en 1153, et quand il meurt l'année suivante, en 1154, Henri devient roi d'Angleterre. Donc c'est le numéro 2, Henri II d'Angleterre, puisque le premier, c'était Henri Beauclerc. Henri Plantagenet avait épousé dès 1152 Aliénor, duchesse d'Aquitaine, divorcée du roi de France Louis VII. Ça, c'est une grande affaire qui va empoisonner les relations internationales, en tout cas les relations entre la France et l'Angleterre, pendant au moins 300 ans jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans. Et leur domaine à eux, c'est ce qu'on appelle pompeusement l'Empire Plantagenet, parce que ça comprend donc les possessions d'Henri, le royaume d'Angleterre, de l'autre côté de la Manche, la Normandie, l'Anjou et le Maine, sans compter une certaine suzeraineté sur la Bretagne. Et vous ajoutez à ça les possessions d'Aliénor, qui possédait la Grande Aquitaine, c'est-à-dire l'Aquitaine que l'on connaît, mais plus le Poitou, plus le Limousin, le Limousin et l'Auvergne. Enfin bon, c'est quand même immense. Et évidemment, à côté de ça, les petites possessions personnelles de domaine royal capétien et tout petit à côté de ça. Domfront a été donné en douaire à Aliénor, bon, qui n'avait pourtant pas besoin de ça pour vivre, mais enfin, il y a une coutume en Normandie, il faut donner des biens à l'épouse pour qu'elle ait les moyens de vivre au cas où son mari décéderait avant elle. Et Domfront a été donné en douaire à Aliénor avec Falaise et Bonneville-sur-Touques. Nous aurons à en reparler. Alors, là, dans ce nouveau contexte, l'importance de Domfront change. Jusqu'ici, Domfront, c'était une forteresse protégeant la frontière méridionale de la Normandie. Mais maintenant, elle est inclue au cœur du domaine plantagenet. Et ça devient une halte, une étape sur les routes nord-sud que fréquentent les souverains anglo-normands. Une étape agréable, parce qu'on peut chasser dans les forêts proches, la forêt d'Andenne, la forêt de Langue-Pourri, par exemple. Et éventuellement, la forêt de Passet, qu'on appelait la forêt de Sylvedru. Alors, Henri et Domfront, entre 1156 et 1159, ça ne peut pas être plus précisément daté, dans une charte donnée à Argentan, Henri II confirme la libre jouissance de leurs coutumes aux bourgeois de Domfront. Ça montre une chose, ça veut dire que les bourgeois de Domfront avaient déjà des privilèges, des coutumes. Hein, peut-être qu'ils étaient exempts de certaines taxes, ou ils avaient le droit d'organiser des foires ou des marchés, etc. Et que c'était déjà antérieur à Henri II, puisqu'Henri II ne fait que le confirmer. On a au moins 8 séjours attestés, par des documents ou par des témoignages probables, d'Henri II à Domfront, et au moins 4 autres séjours probables. Mais l'étude complète est à faire. Je n'ai pas l'itinéraire complet et précis d'Henri II Plantagenet. Les séjours les plus notables sont les suivants. En août 1161, Henri est très probablement présent à Domfront pour le baptême de sa fille, enfin d'une de ses filles, qui s'appelle, hélas pour nous, Aliénor. Donc c'est Aliénor, fille d'Aliénor d'Aquitaine, donc c'est Aliénor la jeune, et son véritable titre, ce serait donc Aliénor d'Angleterre. Elle est baptisée à Domfront, elle y est peut-être née quelques jours avant, c'est son parrain Robert de Torigny, enfin un de ses parents, qui nous le dit dans sa chronique, donc on peut lui faire confiance. Je dois à la vérité qu'un autre chroniqueur, qui s'appelle Raoul de Diceto, l'a fait naître à Rouen. Mais à Domfront, on va préférer croire Robert de Torigny. Les 23 et 24 août 1169, se tient à Domfront la fameuse rencontre entre Henri II et les légats du pape, chargés de le réconcilier avec Thomas Becket. Alors, je ne vais pas raconter ici dans le détail l'histoire du conflit entre Henri, le roi Henri et Thomas Becket. Disons que Thomas Becket, c'était au départ totalement laïque, c'était son chancelier. Et Henri avait eu la bonne idée, croyait-il, de le nommer archevêque de Canterbury quand le siège de Canterbury était devenu vacant. Et donc il nommait un fidèle à la tête de l'Église d'Angleterre. Mais manque de chance pour Henri, Thomas Becket a pris son rôle de primat d'Angleterre extrêmement au sérieux et du jour au lendemain, au lieu d'être le fidèle serviteur de Henri, il s'est mis à défendre bec et ongle les droits, les privilèges de l'Église d'Angleterre. Il n'a pas tardé à rentrer en conflit avec son ancien maître. Alors ça a été très très grave, il a été menacé, il s'est enfui sur le continent. Bon, et on en était là. Quand le pape avait envoyé une mission de conciliation avec un nommé Gratien, qui était le neveu du pape, alors on ne sait pas lequel, soit Eugène IV, les historiens disent le neveu d'Eugène IV, ça doit être une faute de frappe, parce que Eugène IV a été pape de 1431 à 1447, donc ça ne peut pas être lui. Donc c'est peut-être le neveu d'Eugène III qui avait été pape de 1145 à 1153, ou alors c'était le neveu d'Adrien IV qui avait été pape après, de 1154 à 1159. Vous remarquez que c'était déjà plus le pape de 1169. Et le deuxième émissaire s'appelait Vivien, était archidiacre d'Orvieto. Orvieto, c'est en Italie, dans les états du pape. Alors l'entrevue a été racontée par un chroniqueur de l'époque. Henri se montre d'ailleurs passablement peu aimable. Il reçoit les légats. Bon, et puis ils avaient commencé à discuter. Quand revient de la chasse son fils, qui avait été chassé dans la forêt la plus proche, et qui revient avec un cerf, Henri plante littéralement là les deux légats du pape pour aller féliciter les chasseurs. Il leur fait don de la bête et tout et tout. Et puis on reprend les discussions de le lendemain seulement. Bon, ça tourne au vinaigre, on n'arrive pas à un accord, on se met d'accord pour une autre réunion un petit peu plus tard qui se tiendra. Enfin bon. Et d'ailleurs, il n'y aura jamais d'accord. Thomas Becket finira par se résoudre à rentrer en Angleterre en 1170, donc l'année d'après, et il a été assassiné dans sa propre cathédrale de Canterbury à Noël 1170. Ça a fait un scandale, mais retentissant à l'époque. La preuve, c'est qu'on en parle encore. Henri II a été obligé de désavouer. Alors, on n'a jamais su si c'était vraiment sur son ordre express ou si c'est des chevaliers de son entourage qui ont fait du zèle et qui ont cru lui faire plaisir. Ça, on ne le sait pas. Mais Henri II est obligé de s'humilier, de demander de faire amende honorable. Il l'a fait à Avranches. Et on conserve encore à Avranches, de nos jours, c'était à la cathédrale Saint-André, qui est au bout du promontoire à Avranches, qui a été complètement détruite à peu près à l'époque de la Révolution. Mais on a quand même conservé la dalle de granit sur laquelle s'est agenouillé Henri II pour faire amende honorable. Elle se voit encore si vous allez à Avranches. En 1170, le 10 août, Henri tombe gravement malade et il fait son testament à la Motte en Gers. Gers, près de chez nous, hein. C'est très proche de Domfront, donc peut-être était-il venu à Domfront dans cet été 1170. Alors il ne meurt pas, il va se remettre. En 1180, on a des mentions de dépenses pour le château de Domfront dans les comptes de Régnier ou Renaud le Taillandier, prévôt de Domfront. Il y a un certain nombre de dépenses, hein, 77 livres, 22 deniers pour faire des travaux dans la chambre haute, puis 29 livres et des brouettes après, puis encore d'autres dépenses. Enfin, on dépense au total 150 livres, 30 sous et 9 deniers. Alors vous allez me dire, c'est quoi 150 livres et quelques? C'est beaucoup, hein, c'est des grosses dépenses pour donc des travaux au château de Domfront sur ordre d'Henri II. Et puis ce sont des brefs royaux, c'est-à-dire des petit document très très court, hein. Moi, Henri, roi d'Angleterre, ordonne à machin chouette de faire ceci, daté, signé, paf, et c'est tout, hein. Ça donne pas plus de précision que ça. Donc une présence possible de Henri II en 1170 à Domfront, ou en tout cas dans les environs, et peut-être une autre en 1180, pendant l'été 1180, parce qu'il est à Goron, ça c'est attesté qu'il est à Goron. Alors, peut-être qu'il a poussé jusqu'à Domfront, et il ordonne d'approvisionner un certain nombre de châteaux, dont Domfront, en tonneaux de vin d'Anjou. Donc voilà. Et puis, le dernier séjour attesté d'Henri à Domfront, c'est les fêtes de Noël 1185 qu'il passe ici. Alors, tout seul, ça devait, enfin tout seul, avec ses serviteurs, sa cour de l'époque, etc. Mais en tout cas, sans sa famille, parce que son épouse Aliénor, il l'a placée en résidence surveillée en Angleterre. Elle est quasiment en prison en Angleterre, parce qu'elle a soutenu la révolte de ses propres enfants, qui ne sont pas là non plus, contre lui, parce que les enfants réclamaient en disant « on veut une part de tes terres, on doit avoir les moyens de vivre, etc. etc. » Et Henri, je ne vais pas raconter tout ça, avait, fait semblant de concéder la remise de certains comtés ou certains fiefs à ses enfants. Henri ne reviendra pas à notre connaissance à Domfront. Après Noël 1185, il meurt à Chinon le 6 juillet 1189. Son fils Richard lui succède et ça fait l'objet de notre prochaine chronique, les visites de Richard et de Jean Santerre, les enfants d'Henri II et d'Aliénor, à Domfront.